Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 41, l'aventure à Bornéo. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très bel été avec peut-être, qui sait, un voyage en Asie. Le voyage que je vous propose aujourd'hui va être de toute beauté puisque nous partons dans l'aventure, la vraie, dans ce que l'Asie a probablement de plus beau à nous offrir en termes de forêts primaires, de jungles et de peuples traditionnels vivant en leur sein. Et c'est avec Thierry Robinet, vous vous en doutez peut-être, que nous allons approcher cette terre de légende. Alors préparez bien votre équipement, votre esprit d'aventure. Bienvenue à Bornéo. Eh bien bonjour Thierry.
Bonjour Romain.
Aujourd'hui Thierry, 15e épisode sur l'Indonésie et il y avait un grand manque jusqu'à maintenant, un endroit où on n'a encore jamais allé et on va combler ce vide aujourd'hui. On n'est jamais allé à Bornéo. Alors Bornéo, c'est un grand nom de l'aventure. S'il y a une terre d'aventure en Asie, c'est bien Bornéo. C'est la troisième plus grande île du monde et la plus grande île en Asie. C'est une île immense qui est partagée entre deux pays, la Malaisie avec les états de Sabah et Sarawak sur la partie nord et tout le reste étant la portion indonésienne, Kalimantan. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est une terre d'aventure, c'est un endroit qui reste encore très sauvage. C'est avec l'Amazonie, je crois, l'endroit le plus divers au monde en termes de faune et flore. Et c'est une terre que tu as arpentée en long et en large depuis des années. C'est une terre également qui abrite le peuple Dayak, dont on va parler aujourd'hui énormément. Et une terre qui te passionne, tout simplement. Donc, pour commencer, comme on le fait d'habitude, parle-nous déjà de sa situation géographique, de ses caractéristiques géographiques, et puis de la manière dont toi, tu as découvert Bornéo pour la première fois, ce nom qui flottait comme ça dans ton imaginaire.
Ah ben Bornéo, là franchement tu me poses des questions, je sais pas par quoi commencer, ça c'est pas simple. Hein. Moi je me souviens que Jacques Dutronc chantait « J'ai été borné à Bornéo », c'est marrant, est-ce qu'il savait vraiment où se trouvait Bornéo, je sais pas. Mais moi Bornéo ça m'a fasciné finalement très jeune, bien avant que je vienne en Indonésie. Et quand je suis arrivé en Indonésie, j'ai commencé par Sumatra, déjà qui était un grand domaine de jungle. C'était énorme. Et l'Indonésie était toujours présentée comme l'archipel de la Sonde, les îles de la Sonde, plus grand archipel du monde, était présentée comme parmi les îles les plus importantes de la planète. Quand on voit l'île de Sumatra qui est énorme, qui doit être la 5e ou 6e plus grande île au monde, Bornéo qui est là, comme tu as dit, la 3e plus grande île, et la Papoua qui est tout au bout déjà dans le continent Pacifique, qui est la 4e plus grande île au monde. Bon, c'était passionnant. En plus, de par ma curiosité de vouloir connaître à tout prix tout ce qu'il y avait dans ce pays, dans les îles, les peuples, etc., j'avais déjà fait pas mal de voyages à droite et à gauche dans ces îles, je me suis très vite arrêté à cette île de Bornéo parce que j'avais lu des récits extraordinaires des Dayaks. Alors quand on parle des Dayaks, ce seul nom seulement faisait frémir déjà à une époque. Dans les au début du 20e siècle, entre le 19e, 18e, 19e et début du 20e siècle, quand on parlait des Dayaks, on avait l'impression qu'on tombait sur un peuple sanguinaire qui ne rigolait pas parce que c'était des coupeurs de tête. Donc quand on parle de coupeurs de tête déjà, des gens qui vivent dans leur jungle et tout, avec l'arc, les flèches ou la sarbacane, c'est impressionnant. Donc moi ça m'impressionnait, et ce qui m'impressionnait peut-être au départ le plus sur Bornéo, c'était la jungle. Parce qu'en plus, quand on dit terre vierge, jungle, des arbres immenses, des animaux pas possibles, des insectes et tout ça, moi qui ai toujours été un passionné de la nature, parce que quand j'étais petit, et ça c'est extraordinaire, dès l'âge de 7, 8 ans, 10 ans, je passais mes journées dans les arbres. Donc déjà, j'avais cette passion pour les arbres. Vivre dans les arbres, où ma mère me cherchait partout. Et moi, j'étais au sommet des arbres, je me cachais, je voulais pas qu'on me voie. Donc je faisais corps à la nature. J'étais comme dans un culte avec la nature. Donc pour moi, quand je suis arrivé en Indonésie, c'était justement retrouver toute cette passion du vert, passion des peuples, passion de la mer, passion des montagnes. Bref, un peuple qui vivait, un pays qui vivait. Alors Bornéo, tout à l'heure tu as dit qu'il y avait, il y a deux, trois pays à Bornéo. Tu as parlé du Sarawak et du Sabah. Il y a aussi le petit pays, le Brunei, qui est un des pays les plus riches du monde d'ailleurs, parce que le sultan, tout lui appartient dans ce petit pays qui est truffé de pétrole. Voilà. Mais la plus grande partie de Bornéo appartient à l'Indonésie, c'est ce qu'on appelle le Kalimantan. Et le Kalimantan, partie montagneuse, tout le centre est très montagneux, et surtout il y a des grands fleuves. Quand on parle de ces fleuves de Bornéo, de Kalimantan, ce sont des grands fleuves, très longs, qui serpentent à travers les montagnes, à travers les jungles, notamment, bon, il y en a un qui est plus mythique que les autres, c'est la Mahakam, le Mahakam ou la Mahakam. Donc moi j'ai dû, en remontant la Mahakam, la première fois que je l'ai fait, moi ça m'a fait penser justement comment en remontant l'Irrawaddy, en remontant le Yangtze, en remontant le Mekong, parce que c'était des fleuves, on savait ce qu'il y avait à l'embouchure, c'est-à-dire de la mer, là on connaissait, il y avait des petites villes, il y avait des gros villages, mais à la source, là-haut, on ne savait pas ce qu'il y avait. Et moi ça sont des choses qui me fascinent. Donc, même plus dans mon imaginaire là, mais dans quand je suis là dans un voyage ou que je vais préparer un voyage ou que je veux découvrir, moi faut que j'aille à la source, faut que j'aille au sommet. C'est comme quand je vais en montagne, si ou un volcan, si je suis en bas, faut que j'aille au sommet, sinon c'est pas la peine. Si j'ai pas atteint le sommet, il manque quelque chose. Donc c'est ça que j'ai voulu découvrir à Bornéo. La toute première fois, c'est de monter aux sources de la Mahakam. Et au fil des années, je me suis organisé perso des expéditions extraordinaires. J'ai voulu traverser Bornéo d'ouest en est. J'ai voulu traverser Bornéo du sud au nord. Quand on sait que ça comprend à peu près 600, 700 kilomètres, 800 kilomètres, même et plus. Donc on se dit, bon là, on part pas dans quelque chose qui est facile. Surtout que quand on sait que ce sont des jungles assez diversifiées et des jungles qui sont assez terribles. Donc on sait pas dans quoi on s'en va. On part dans l'inconnu. Il faut trouver les personnes aussi qui puissent nous accompagner, les porteurs qui puissent nous aider.
Raconte-nous ce premier voyage que tu as fait sur le fleuve Mahakam.
Ah ben la Mahakam, c'est le plus grand fleuve donc du Kalimantan, et dès qu'on est parti de la côte de Samarinda, que l'on remonte, il y a déjà quelques endroits où déjà on tombe vite fait dans l'univers des Dayaks. Donc les Dayaks Bahan, les Dayaks Kenya sont beaucoup plus au nord, et tout le long du fleuve, je me souviens dans les années 80, 90 même, on voyait des grandes longhouses qui étaient sur le bord, comme près du lac Jampang, où il y avait une longhouse unique, à deux étages. J'en ai jamais vu deux comme ça à Bornéo, à deux étages, donc où il y avait toute une communauté qui était importante, 100 à 200 personnes pouvaient vivre dans la même maison. Donc les familles, chaque famille dans le clan avait sa cuisine et son endroit pour dormir. Donc c'était quelque chose déjà qui était impressionnant à découvrir. Donc ça expliquait bien comment les Dayaks ont vécu. Ils vivaient tous dans un monde fermé, tous en eux-mêmes. Comme ça, quand on les attaquait, ils pouvaient faire face à l'ennemi. Donc ils étaient difficilement attaquables parce que les maisons étaient immenses. Et moi, je me suis beaucoup intéressé surtout à ce qu'il y avait beaucoup plus au nord. Donc j'ai voulu remonter dans la région de la Pokayan, où là, quand on arrive jusqu'à Longbagoon, les gros bateaux, on va dire, les gros bateaux, enfin les moyens bateaux, peuvent arriver jusqu'à Longbagoon parce qu'il n'y a pas de rapide. Et là, c'est le terminus. Et de là, la vraie aventure commence. Donc c'est qu'on remonte jusqu'au plateau des monts Muller pour aller à la source de la Mahakam. Ben là, je peux vous dire qu'après, il faut avoir les bateaux à longue queue, donc avec une grande perche derrière pour pouvoir le soulever le moteur très rapidement à cause des rochers. J'ai passé des rapides comme j'en avais vu au Népal. Des rapides incroyables. Les rapides de Muara Saïté, je me souviens, les Bambaram, comme ils appellent ça là-bas. Quand on les remonte, tu te dis d'ailleurs, on va jamais pouvoir le remonter parce que c'est tellement pentu, il y a une telle force. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il va faire pour passer le Dayak? Eh ben, il passe. Moi, je peux vous dire que la première, le mec, il me l'a, moi, de toute façon, devant, j'avais les pétoches, hein. J'avais peur quand j'ai vu le premier rapide de Mouras a été. Je me suis dit, moi, je reste pas dans la pirogue, hein. Donc, le gars, il m'a dit, OK, tu descends. Et je suis passé dans les rochers parce que sur les bords, on peut passer. Et le gars, tout seul, je l'ai vu passer avec sa pirogue, passer c'est rapide. Alors, c'est OK. Après, ça redevient plat et on continue. On arrive jusqu'à Tiongohang, on arrive à Longpanghai, qui sont déjà des villages d'Ayak, très haut perché, très loin. Et c'est là qu'on découvre vraiment l'essence même du peuple d'Ayak. Très peu de voyageurs vont déjà jusqu'à là-bas. L'essence même du peuple d'Ayak, c'est-à-dire, les d'Ayak sont les femmes aux longues oreilles. Donc, moi, j'ai rencontré des gens, des femmes extraordinaires, qui ont le lobe de l'oreille qui était tiré jusque sur les épaules. Et au bout, on leur met des poids qui peuvent peser jusqu'à 500 à 600 grammes. Donc, sur les deux oreilles, ça fait 1,2 kg, ça doit quand même... Mais elles sont dans une grande habitude. Donc, le lobe de l'oreille, il fait au moins 30 centimètres, il y en a. Donc, c'est assez fabuleux. Donc, quand on rencontre des gens comme ça, déjà, on se dit, tiens, on est dans un système traditionnel, déjà, qui est totalement différent de ce qu'on a vu ailleurs, au même titre qu'on irait voir les femmes girafes en Birmanie, ou etc., etc., quoi. Des gens qui ont conservé une tradition très forte. Donc quand on arrive vers Tiongohang, Longpanghai, on arrive déjà vers des zones montagneuses. On a passé certaines zones montagneuses, on a passé la jungle, mais sur la rivière, la jungle, on la voit, mais on l'effleure. Et quand on arrive à Longapari, qui est le dernier gros village sur la Mahakam, depuis le départ de Samarinda jusqu'à là-haut, on a déjà presque mis une semaine pour arriver. Donc c'est déjà une aventure en elle-même. À Longapari, il y a une longhouse qui est extraordinaire. C'est certainement la plus vieille et la plus belle que j'ai vue. Et de là, bon, les Dayaks qui vont te dire « Tu veux voir les sources de la Mahakam ? Ok. Bon, maintenant, il faut partir à pied. » Quand c'est fini, il n'y a plus de pirogue, il n'y a plus rien. Et elle est où, ces sources de la Mahakam? Ben, elle est quelque part, là, dans la montagne, au milieu de la jungle. Ben, il faut remonter. Et il faut marcher encore 2 jours, 3 jours pour aller dans des jungles infestées de sangsues. Il pleut 10 heures par jour. Il n'y a pas de chemin. Et quand on arrive donc à cette source de la Mahakam, ben, je ne sais pas, c'est comme un peu une quête du Graal. Tu te dis, ben voilà, je suis à la source d'un grand fleuve. Donc moi je l'ai fait, ça a été ma passion du moment, je l'ai fait. Quand je suis redescendu après, bon, j'étais scotché, j'étais fatigué, très très fatigué, parce que c'est une épreuve de marcher dans les zones tropicales.
Voilà, donc là on voit bien qu'à Bornéo c'est quand même une sacrée aventure, mais ton voyage s'est pas arrêté là, hein. T'as découvert après une région et un peuple surtout qui resteront pour toi le vrai coup de cœur de Bornéo.
Mon voyage s'est pas arrêté là. De toute cette région, il y a une région qui est extraordinaire à côté, c'est la région de la Pokayan, qui justement a une très très longue et forte tradition d'Ayak. Parce que des peuples d'Ayak, il y en a des dizaines. Il y a les Dayak Kenya, il y a les Dayak Iban, il y a les Dayak Bahan, il y a les Punan, etc., etc. Des peuples qui ont marqué, qui ont eu un jour une histoire très forte, donc qui ont marqué une période. Il y a d'autres Dayak qui font pas parler d'eux parce qu'ils vivent très très loin dans les jungles. Et c'est souvent ça que j'ai voulu aller voir. Donc pour moi, après avoir découvert cette Mahakam, j'ai eu la passion de vouloir découvrir les peuples à forte tradition et où il y avait le plus de longhouses possibles, de longues maisons. Et c'est pour ça que je me suis fixé sur une région qui est la région de la Pokayan.
Alors tu as dit, il y a plusieurs peuples d'Ayak. Qu'est-ce qu'ils ont en commun dans leur culture, dans leur tradition? Qu'est-ce qu'ils partagent?
Bah, tous ces peuples d'Ayak, ils partagent une tradition guerrière. Presque tous, pas tous. Les Punan, on va y revenir après, si tu veux, dans cette émission, sont des gens plutôt très calmes et des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la forêt, au contraire, qui veulent s'échapper des autres, s'écarter des autres. Mais quand on voit la tradition des vrais Dayak, moi, il y a deux peuples qui sont marquants. C'est le peuple des Dayak Kenya, qui était donc toute la région de la Pokayan sur les hauts plateaux, avec au milieu la frontière entre le Sarawak et le Kalimantan. Et de l'autre côté... Bon, il y en avait un peu du côté Kalimantan, mais beaucoup moins. De l'autre côté, il y avait les Dayak Iban. Et les Ibans ont peut-être été les plus belliqueux en termes de vouloir tuer les autres, faire des prisonniers, prendre des esclaves et surtout couper des têtes pour les accrocher sur le fronton des longhouses de leur village. Moi, il m'est arrivé que ce soit au Sarawak, parce que je connais très bien le Sarawak aussi, avec tous ses fleuves, le Rajang, la Skrang River, avec ses rapides, je l'ai fait plusieurs fois. Il m'est arrivé de rentrer dans des villages, des gros villages Iban, où il y avait encore des têtes de Japonais qui étaient accrochées à l'entrée. Donc, il y avait encore des morceaux de chair, de lambeaux avec des cheveux qui étaient accrochés sur les frontons des... C'est impressionnant. Bon, ça fait rigoler les Dayaks maintenant, mais et puis les gars quand ils partent à la chasse, bon, ils ont la sarbacane. Ce sont des tireurs d'élite, ces gars-là. J'ai essayé, moi, la sarbacane. Je peux vous dire que ça tire juste. C'est presque plus facile de tirer la sarbacane qu'avec un arc. Tu tires sur un cocotier, par exemple, qui est à 15 mètres avec une sarbacane, tu l'attrapes. Alors qu'avec un arc, tiens, si tu bouges un iota, pouf, c'est fini, la flèche elle passe à côté. Donc ces Iban m'ont marqué, mais comme c'était de l'autre côté, bon, et que moi j'étais quand même, je travaillais beaucoup plus sur l'Indonésie et j'étais un passionné de l'Indonésie, donc je me suis arrêté en Apokayan notamment, donc chez les Kenya, et où j'ai découvert un village qui est extraordinaire, qui est où je me suis fait de nombreux amis au fil du temps, le village de Longuro. Et le chef de village, il s'appelait Papoulouk, Monsieur Poulouk, Pak, ça veut dire monsieur, mais le père, quoi, le chef. Papoulouk, avec son, je le revois toujours avec son manteau de léopard. Il quittait jamais son manteau de léopard, donc déjà lui-même, il était extraordinaire, avec le petit chapeau d'ayak avec les plumes dessus. C'était un personnage. Donc quand j'ai découvert cet homme, qui m'a dit « reste chez nous ». Mets-toi dans la longhouse ici, tu fais partie, sans me connaître, tu fais partie de notre communauté. J'ai trouvé ça fabuleux. Je pense que je l'ai compris après, c'est que ces gens-là, quand t'as fait l'effort de venir aussi loin et que t'es un étranger pour venir dans leur village, c'est un signe de respect. C'est une marque de respect. Et ce Papoulouk, il était obligé de me rendre l'appareil. Moi, j'étais venu le voir. Lui, il fallait qu'il me rende quelque chose. Donc, en me disant, bah, écoute, ma maison est la tienne. Tu restes là. Et où j'ai beaucoup d'anecdotes, parce que je suis retourné souvent à Longuro, c'est que les Dayaks, ils nous prennent vite à la bonne et ils voudraient vite nous marier. C'est qu'on m'a présenté toutes les jeunes filles du village. Elles voulaient toutes rester avec moi. Donc, c'était. Elles sont en plus les filles de la Pokayan sont des filles superbes. Les filles d'Ayak sont très belles. Et si j'avais été un aventurier, juste peut-être jusqu'au bout des ongles, en disant bah tiens, bah, Bornéo, ça me plaît, je vais rester là. Oh, bah, j'avais ma place toute faite au village. J'avais ma place dans la longhouse. Mais j'aurais fini avec un coupe-coupe en train de défricher la jungle, quoi. Bon, étant passionné du voyage et le voyage ne se finissant pas pour moi, bon, je me suis pas arrêté là. Mais c'était extraordinaire parce que ça m'a permis de mieux connaître ces gens-là. Ils me faisaient découvrir ce qu'était leur passion. Donc, j'ai bien connu ce peuple d'Ayak Kenya. Et ce qui était intéressant, c'est que Papoulouk, en parlant justement des chasseurs de tête, en parlant des guerres, il m'a dit que la paix n'avait jamais été signée entre les Dayaks et les Iban. Les Iban qui étaient... ils étaient dirigés par un mercenaire anglais, Charles Brooke. On le retrouve d'ailleurs dans les chroniques du Sarawak, les chroniques anglaises. À l'époque, Charles Brooke, à la solde de la couronne britannique, a beaucoup été les Iban pour agrandir le territoire. Parce qu'il faut penser que le Kalimantan, à l'époque, fait partie de l'Empire hollandais, l'Empire des Indes néerlandaises. Et de l'autre côté, c'était l'Empire des Indes anglaises, Singapour, la Malaisie. Donc c'était aussi des luttes d'influence. Et la paix n'a jamais été signée entre les Dayaks et les Iban. Donc Papoulouk, il aimerait bien le faire. Mais surtout que là-bas, ça boit du touac, du vin de palme, mais pas au verre. Ils ont des immenses tonneaux, des tonneaux de 200 litres, hein, comme nos tonneaux de vin ou de bière ici, et remplis de vin de palme, et ils boivent à la paille. Alors je peux vous dire que boire à la paille, ça défonce, on va le dire, ça défonce deux fois plus vite que de boire au verre. Et ben alors, mais qu'est-ce qu'ils boivent? Donc ça, moi, je m'amusais pas trop à boire à la paille parce que on était mal. C'est là qu'après, il y avait toutes les filles qui buvaient autant, qui vous couraient après. Donc c'était un peu particulier, le pays d'Ayak. Voilà, donc moi, je me suis pris de passion pour ce peuple parce que déjà, ils avaient des longhouses qui étaient superbes. Je voyais des gens qui partaient à la chasse avec les sarbacanes. Je voyais des gens habillés avec des peaux de léopard, avec tout l'attirail du Dayak primaire, quoi. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et surtout, j'ai pu poser beaucoup de questions. Les gens m'ont parlé de leur peuple. Et c'est de là que j'ai décidé de faire une de mes plus grandes expéditions à travers le Kalimantan. C'est de partir donc de chez Papulouk, du village de Longouro, et de rejoindre la petite ville de Putusibao, à l'ouest du Kalimantan. Moi, j'étais à l'est, il fallait rejoindre l'ouest, traverser toute la région, toute la rivière Bo, la rivière Wok, remonter une partie de la rivière que je connaissais déjà, la rivière le Mahakam, et traverser toutes les montagnes mulaires que personne n'avait jamais fait. Absolument inconnu, pour rejoindre Putusibao. Mais je peux vous dire que cette expédition, moi je la compare à l'expédition des grandes époques, des années du siècle dernier, où les gens partaient sans savoir où ils allaient. Et moi je suis parti juste avec un petit gars qui me portait mon sac avec de la nourriture, qui finalement, la nourriture m'a bien servi, mais partir avec un dayak, on peut partir les mains dans les poches, on va dire, parce que le gars il sait où trouver de la nourriture, comment l'attraper, comment faire, et on meurt jamais de faim avec un gars comme ça. Il sait comment construire un camp dans la forêt, faire du feu alors que c'est trempé partout, et il m'a aidé à traverser tous les immenses rapides de tous les fleuves, les rivières que j'ai traversées, les rapides, passer au sommet du Tugu Perbatasan, le sommet des monts mulaires, où là j'ai eu l'impression d'être au Népal, avec les manis, les Om Mani Padme Hum, avec tous les drapeaux de prière qui flottaient dans le vent. Où chacun, quand il passe à cet endroit-là, se doit de poser un petit bout de tissu pour porter chance. Donc voilà, moi le Kalimantan, ça m'a fasciné. Plus haut, quand on remonte un peu au nord de cette Apokayan, on tombe en territoire Punan. Ah là aussi, c'est un peuple qui m'a absolument fasciné. Et j'ai plus découvert les Punan à travers un homme. Mais celui-là, il n'était pas dayak, il était suisse, il s'appelait Bruno Manser. Bruno Manser, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à Jakarta, il s'était pris de passion, il a combattu aux côtés des Punan pour éviter la déforestation qui était sur le Sarawak et à cheval aussi sur l'Indonésie. Donc un gars qui a vécu des années avec les Punan, pour justement les aider et puis essayer de faire connaître au monde ce petit peuple qui vit dans la forêt et qui voit au jour le jour son territoire se rétrécir. Parce que tous ces peuples de la forêt, notamment à Bornéo, vivaient de chasse et de cueillette, donc ils vivent de ce que la forêt procure. Donc c'est important pour eux. Et si demain il y a des multinationales du bois qui débarquent et vont tout couper pour vendre les grumes de bois et pour planter ensuite du palmier à huile, il y en a beaucoup malheureusement qui oublient que des peuples vivent dans ces forêts et que le respect, la dignité humaine, c'est quelque chose, et que souvent toutes ces multinationales du bois, tous ces gros business, ont oublié qu'il y avait des hommes, des humains qui étaient là-bas et qui vivaient des ressources de la forêt. Donc il y en a qui oublient un peu trop vite que ces peuples-là, ils sont importants. En plus, tous ces peuples-là sont les gardiens de la forêt. J'en ai déjà parlé avec Théo Rotschak à Sibérout. Pour moi, le peuple Punan, c'est aussi un des vrais derniers grands gardiens de la forêt de l'Indonésie. Et malheureusement, bon, il disparaît au jour le jour parce qu'il voit son territoire de forêt qui disparaît. Donc les rivières qui sont pleines de mercure parce que les gens vont chercher de l'or et malheureusement ils polluent. Bon, c'est pas le cas partout, mais ça arrive. Et donc Bruno Manser s'était pris de passion pour ce peuple. Il a disparu lui aussi parce qu'il était recherché par la police malaise surtout à l'époque. Donc on ne sait pas comment il a disparu. Donc c'est un mystère et ça reste une énigme, mais il reste pour moi quelque part le héros de la cause Punan, un héros extérieur qui a voulu aider un peuple qui le mérite. Et voilà. Parce que les Punan sont des gens qui sont des cueilleurs, mais qui vivent 15 jours ici. Ils vivent dans une petite maison, un peu dans les arbres, un peu remontée. Et après, ils vont changer de territoire. Parce qu'à partir du moment où il y a moins de nourriture ici, donc ils bougent. Mais ce n'est pas un village. Ils vivent un petit peu comme les Koraway en Papoua. Ils sont 5, 6, 10 personnes, une famille, et ils changent. Donc des chasseurs-cueilleurs, d'une gentillesse fabuleuse. J'aime bien parce qu'ils ont les cheveux qui sont coupés, comme on dit, on met un bol sur la tête et on coupe tout ce qui dépasse. Donc ce style très dayak, ça. Et gentil, vraiment gentil. Et ce sont des gens qui, moi aussi, ils m'ont fasciné. Donc, du peu, enfin, des jours et des jours que j'ai pu passer avec eux, à discuter justement de leur territoire, à voir comment ils vivaient en forêt, aller chercher les plantes, comment ils chassent, de la manière très intelligente comment ils chassent. Donc tout ça m'a fasciné, et de savoir bon qu'ils disparaissent tout doucement, comme le feu qui consume la forêt, comme je l'ai dit, moi ça me fait un peu de peine. Mais bon, voilà, c'est la vie de Bornéo. Et...
Oui, effectivement, c'est assez difficile d'être optimiste quand on parle de Bornéo. On voit souvent ces images à la télé d'ailleurs, de forêts totalement décimées avec ces orang-outans qui cherchent des arbres pour s'abriter. C'est assez dramatique, hein, et je crois que tu l'as vu toi-même de tes yeux de toute façon.
Si je m'étends un petit peu sur Bornéo elle-même, j'ai eu la chance de faire plusieurs émissions télévisées, notamment avec Yann Arthus Bertrand, pour son émission Home, donc qui faisait un petit peu un état de la planète, état des terres. J'ai ensuite participé à Planet Ocean, c'était l'état des mers, et là on a fait un état des terres, et on a fait quelques émissions sur Bornéo. Ce que j'ai vu du ciel permet pas d'être optimiste quant au devenir des forêts tropicales. Il a été remplacé dans de nombreuses régions de Bornéo ou de Sumatra, ou peut-être un jour en Papoua, par le palmier à huile, qui est bon. Tous ces pays émergents qui ont besoin de faire rentrer des devises et qui ont besoin de faire manger leur population. Voilà, le palmier à huile, c'est quelque chose qui est important. Sauf que la forêt primaire, au niveau du concept écologique et de du changement climatique, c'est tellement important que c'est un sujet sur lequel je ne veux pas m'étendre, parce que c'est un autre sujet, ça. Voilà. Donc c'est vrai que quelque part la beauté de Bornéo m'a marqué, parce qu'il y a encore des régions où la jungle est intacte, et quand on rentre dans cette jungle et qu'on voit comment elle est, j'ai rencontré un ours une fois, des arbres immenses qui font jusqu'à 60-70 mètres de hauteur, des insectes extraordinaires. Bon, je parle pas des sangsues qui nous bouffent le long de certains territoires, parce que des moments on en deviendrait complètement fou, notamment quand j'ai traversé les monts Muller, où là je me suis dit comment je vais arriver, comment vont être mes jambes à mon arrivée à Putusibao. Mais finalement ça va, j'ai bien tenu le choc. Mais la forêt, c'est quelque chose de primordial, de fabuleux. Comme un marin aime sur la mer voir des vagues qui ondulent, comme un alpiniste quand il est accroché à sa paroi, c'est absolument fabuleux. Et ben celui qui vit dans la jungle, qui vit au contact du vert, l'enfer vert, je peux vous dire que d'un seul coup c'est de toute beauté. C'est dur, mais c'est de toute beauté. Donc perso, moi je pense que il faut protéger nos forêts. Donc aussi ma passion a été jusqu'à rencontrer aussi Birute Galdikas grâce à la télévision et Nicolas Hulot. On avait fait une superbe émission sur les grands singes, notamment les orang-outans, donc qui peuplent la forêt de Bornéo. Birute Galdikas, qui avait été envoyée en son temps dans les années 60, fin des années 60, par Louis Liquet, qui était un personnage assez extraordinaire, qui avait envoyé donc Birute Galdikas à Bornéo s'occuper des orang-outans, Diane Fosset s'occupait des chimpanzés en Afrique, et Jane Goodall qui s'occupait des gorilles en Afrique. Donc ces trois femmes ont été fabuleuses. L'une s'est fait assassiner d'ailleurs en Afrique concernant les gorilles. Et parce que moi j'ai vu ça aussi avec Birute Galdikas, elle gênait. Dans tous ces pays où il y a des grandes jungles et des grands singes, où les multinationales souvent veulent couper la forêt pour prendre les territoires et planter du palmier à huile par exemple, ou d'autres, où les braconniers qui veulent tuer les animaux pour la peau, pour les dents, pour les poils, pour les ongles, pour faire plaisir à une communauté chinoise en Chine qui se servira pour faire des onguents ou je sais pas quoi. Bon, tout ça, il est certain que ces trois femmes qui s'occupaient d'un seul coup de primates gênaient. Et Birute Galdikas, elle a eu le moral devant les quolibets de la population qui ne comprenaient pas comment une femme pouvait à ce point aimer les orang-outans. On a dit des tas de choses sur elle qui étaient fausses, bien sûr. Mais tout doucement, l'homme, l'Indonésien aussi, je dirais, les humains ont pris conscience que ces animaux-là étaient importants. Moi, personnellement, si on me parle des animaux, j'ai tellement fait de voyages dans ce monde, et notamment en Indonésie, que moi, les animaux, ils ont leur place. Que ce soit les tigres, les éléphants, les rhinos, les orang-outans, s'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour quelque chose. Donc on n'a pas le droit de les éliminer comme ça. Quand bien même l'Indonésie, mais regorgeait d'animaux, regorgeait d'oiseaux, regorgeait de tout. C'était fabuleux. Mais on n'a pas le droit de les tuer et surtout de les faire disparaître. Donc il y a un autre gars, un Français, Aurélien Brûlé, qui est un garçon aussi, qui s'est lancé aussi sur la protection des orang-outans et des singes, les nasiques et d'autres singes des forêts indonésiennes, de Kalimantan, pardon. Il a réussi à faire des émissions de télévision et des émissions de radio pour les Indonésiens eux-mêmes, pour les Dayak eux-mêmes, pour qu'ils puissent comprendre que ces animaux-là sont géniaux, quoi. Ils sont pas là pour gêner. Ils sont là, au contraire, ils font partie du patrimoine. Faire partie du patrimoine, voilà ce qui est important. Ce que les multinationales du bois n'ont absolument pas compris. Mais bon, voilà, la roue tourne, la vie est ce qu'elle est. Bornéo reste une île extraordinaire et où l'aventure existe tout le temps. Donc dès qu'on part, surtout dans le centre, près de la frontière du Sarawak ou du Sabah, on a encore de belles choses à voir devant nous, quoi. Voilà. Et j'ai qu'une chose aussi. J'espère que justement, les Dayak sont un peu parfois fautifs, c'est que quand ils commencent à brûler les forêts pour pouvoir cultiver sur brûlis, j'espère que ces forêts qui brûlent et qui vont gêner souvent les pays comme Singapour ou la Malaisie, jusqu'en Thaïlande même, ou l'Indonésie elle-même, gros problème pour les populations. J'espère que tout doucement le gouvernement indonésien arrivera à gérer ces problèmes d'incendie qui chaque année font des dégâts considérables sur les populations, quoi. Voilà. Mais j'aime Bornéo. Voilà.
Voilà, bah ça conclut un très bel épisode d'introduction à l'aventure à Bornéo de manière générale. Mais c'est un sujet qui est extrêmement vaste. C'est pas en 30 minutes qu'on va pouvoir décrire tout ce qu'on peut faire à Bornéo, c'est évident, mais c'est une très belle introduction. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui prépare un voyage là-bas, l'état d'esprit, la logistique, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure, dans cette grande aventure?
Déjà, comme je l'ai parlé, remonter la Mahakam. Donc on arrive en général en avion jusqu'à Balikpapan, la ville de Samarinda est pas très loin, t'as 2 heures de route, donc sur une bonne route, et de là trouver un bateau, soit un bateau local, parce qu'il y en a qui remontent la Mahakam au moins pour aller jusqu'à Lombagoon, qui se trouve très loin, déjà, ça fait déjà plusieurs 2-3 jours de voyage, on peut dormir à l'intérieur du bateau, c'est sympa avec le peuple, donc on a une belle découverte du fleuve, des berges des fleuves, des villages, etc. Donc après, et puis redescendre par le même moyen, donc déjà on a fait un super voyage. Ou sinon, j'ai parlé de la Pokayan, mais là déjà c'est plus compliqué, il faut prendre un avion de mission, voler jusqu'à Longampung, et de Longampung après marcher quelques heures pour aller par exemple au village de Longuro, et puis voir un petit peu autour Longnawan, tout ça, comment vivent les Dayak, comment ils vivent dans les champs, etc. Manger des ananas qui sont absolument extraordinaires. Alors je me rappelle des ananas de la Pokayan, c'est les meilleurs ananas que j'ai mangé au monde avec Hawaï. Donc ça, fabuleux. Voilà, mais bon, on va pas aller en Pokayan juste pour manger des ananas. C'est ça. Et sinon, un voyage qui est finalement assez facile. On peut prendre l'avion de Surabaya pour aller à la rencontre de Birute Galdikas, justement, qui est dans son camp Liket, qui se trouve à Pankalambun, près de Pankalambun, dans la jungle, où là on peut vivre quelques jours. Il y a la Rimba House, qui est une petite lodge qui est sur la rivière, qui est absolument extraordinaire, des petits bungalows, et de là prendre une pirogue. C'est assez bien organisé, donc finalement c'est pas trop difficile d'y aller, et d'aller voir un petit peu ce centre d'orang-outan de Birute Galdikas, cette fameuse Birute Galdikas envoyée par Louis Liquet, et de voir un petit peu le sort lié aux orang-outans, et surtout se familiariser avec des animaux qui sont pas communs, quoi. Parce que les mâles sont impressionnants, hein, presque comme des gorilles. Hein. Et autrement, les petits orang-outans, ils sont gentils. Et c'est pour ça, moi, je peux comprendre pourquoi des gens se sont passionnés pour ces animaux-là, parce qu'ils sont proches de l'être humain. et aller voir Aurélien Brûlé. Bon, là, il faut prendre plutôt un avion pour aller sur Palancaraya. Et autour, il y a pas mal d'endroits qui sont, justement, il y a la protection des grands singes, comme ça, dans des centres. Et ça, on peut le trouver, Aurélien Brûlé, dit Chani. On peut aller directement sur son site. Vous tapez Aurélien Brûlé sur Google, vous le trouverez tout de suite. Donc, ça, à la limite, ça peut être un voyage assez extraordinaire de rencontrer ce personnage, de l'écouter parler. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, ce gars-là aussi. Voilà. Mais personnellement, bon, Birute Galdica est un personnage mythique dans cette histoire justement de protection des grands singes. Donc aller à Pancalamboun et aller à Campliquet, c'est fabuleux. Et de remonter cette Mahakam. Voilà, pour moi, si on a un voyage comme ça, on dit tiens, je vais aller découvrir Bornéo. Voilà, il commence par là.
Et pour finir, j'aimerais que tu nous parles aussi de ce proverbe d'Ayak dont tu m'avais parlé une fois et qui a été le titre d'un article que tu as fait dans la Gazette de Bali, le journal francophone à Bali. Parle-nous de ce proverbe.
Ah oui, donc ce fameux proverbe, c'est Papoulouk, dans le village de Longouro, au manteau de léopard, qui m'a sorti ça un jour. Celui qui a descendu et remonté le fleuve 4 fois est un vieillard. Ça, je peux vous dire que c'est vrai. Je peux vous dire que c'est vrai puisque je l'ai fait. J'ai traversé donc en partant de Longouro et descendre toute la rivière Ouogbo, les Bambram, remonter la Mahakam et traverser jusqu'à Putusibao par les monts Mulaire, ne serait-ce que d'arriver sur le fleuve Mahakam déjà où on avait essayé de descendre les rapides. Avec des dayaks, des jeunes dayaks, on avait fabriqué un radeau. Et on a descendu, on a tout cassé au bout d'une demi-heure. Donc il a fallu qu'on rentre à pied. Donc j'ai dormi sous une souche d'arbre. Je me souviens, en pleine nuit, il pleuvait, on est rentré trempé. J'avais perdu tous mes bagages. Coup de peau, j'avais ma ceinture avec mon passeport dedans, de l'argent. Bon, c'était tout trempé, mais au moins j'avais réussi à sauver mes papiers parce que c'était important. D'ailleurs, c'est lors de cette expédition, quand je suis rentré via Moscou avec ce passeport trempé, donc il y avait une partie de mon nom qui avait disparu, j'ai cru que je repartais jamais de Moscou. C'était à l'époque de Brejnev en plus. Donc je peux vous dire qu'ils rigolaient pas les soviets là. Mais voilà, donc Papoulouk il avait raison. Pourquoi aussi? C'est parce qu'il y avait les villages d'Ayak qui étaient coupeurs de tête et qui tuaient quoi. C'était la guerre entre clans. Donc on partait pas d'une région de Bornéo comme la Pocayenne. On disait pas tiens, on n'allait pas dire je vais descendre vers la Mahakam, même si c'était dur. Mais bon, les Ayak étaient habitués. Mais on n'allait pas là-bas parce que je pense qu'on ne rentrait pas. On était attaqué par d'autres dayaks qui étaient, à une époque, on pouvait dire, toutes les tribus se battaient entre elles. Donc, c'était pas simple, quoi. Donc, j'ai compris ce que Papoulouk voulait dire. Parce que déjà, faire des efforts dans la jungle de Bornéo, le seul endroit où j'ai retrouvé ces efforts énormes à faire dans cette jungle de Bornéo, il n'y a qu'en Papouak, je l'ai vu. Mais ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Voilà.
Ouais, c'est vrai, on avait fait 4 épisodes sur la Papouasie. Pour vous qui aimez l'aventure et partir à la rencontre de ces peuples, la Papouasie et Bornéo, je pense qu'on peut dire que c'est définitivement au panthéon de ce qu'on peut faire en Asie et aussi de par le monde. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour toutes ces informations, tes histoires, tes anecdotes qui donnent comme toujours envie de faire son sac et de partir soi-même découvrir tous ces lieux. À bientôt.
Merci Romain, à bientôt.
Et un grand merci à nouveau à Thierry qui vient de signer son 20e épisode dans l'émission. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous en avez manqué. On a beaucoup parlé d'Indonésie évidemment, mais aussi de Birmanie et d'Inde, 3 de ces pays fétiches en Asie. Pour retrouver les noms qu'il a évoqués dans cet épisode, comme d'habitude, une seule adresse, sur lesroutesdelasie.com/41. Très peu de gens peuvent parler de Bornéo avec autant de connaissances et d'expériences que Thierry, croyez-moi. Donc ces informations sont précieuses. Sur ce même site, vous pouvez retrouver les différents moyens de me contacter ou de me laisser une appréciation, comme sur iTunes, où je continue de recevoir de très gentils commentaires, comme celui de Nicolas Thomaset qui dit « Une référence de l'Asie et du voyage intelligent. Ce pod est véritablement fabuleux. Depuis que je l'ai découvert, j'ai écouté presque tous les épisodes passés, même ceux des pays qui, a priori, m'intéressaient moins. Et au final, cela m'a vraiment donné envie d'y aller aussi. La qualité des intervenants est géniale et l'approche, hors des sentiers battus, me plaît beaucoup. J'écoute tous les jours en prenant le train pour aller bosser et c'est vraiment mon évasion. Merci et bravo à Romain. » Fin du commentaire. Et merci beaucoup à toi, Nicolas. C'est ce genre de retour d'auditeur qui me me pousse vraiment à continuer l'aventure. Et j'apprécie, c'est vrai, énormément d'apprendre la manière dont vous écoutez les interviews. Donc surtout, n'hésitez pas et écrivez-moi. Et vraiment, un immense merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent. Je continuerai bien sûr à vous citer en fin d'émission. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.